Classique 21, la chronique économique, avec Hamid Faljaoui.
Si je vous demande quelle innovation bouleverse le plus notre époque, vous me répondrez sans doute l'intelligence artificielle. Et pourtant, le Financial Times expliquait récemment qu'une autre révolution, plus chimique que numérique, pourrait transformer l'économie. Les médicaments anti-obésité comme l'Ozempic ou l'Wegovy, les fameuses molécules GLP-1. Alors c'est vrai qu'à l'origine, ces traitements visaient le diabète, mais ils ont un effet aussi très spectaculaire. Ils réduisent fortement la sensation de faim en agissant sur le cerveau. Concrètement, les patients mangent moins, surtout moins de produits gras, de produits sucrés et ultra transformés. Et donc le Financial Times cite des données montrant que les utilisateurs réduisent nettement leurs achats de snacks et de sodas. Et d'ailleurs, les prix mondiaux du sucre ont reculé ces deux dernières années et certains industriels commencent à constater un ralentissement sur les produits, en tout cas les plus caloriques. Et donc, la thèse du Financial Times est assez simple. Si des millions de personnes réduisent leurs excès alimentaires, une partie donc de l'économie fondée sur la consommation impulsive pourrait donc être fragilisée. Et c'est vrai que notre système repose en grande partie sur le fait que nous achetons parce que nous en avons envie, et parfois d'ailleurs immédiatement. Et si l'envie diminue, la demande diminue, et si la demande diminue, la croissance économique pourrait ralentir. C'est logique, mais il faut sans doute nuancer la thèse du Financial Times. Pourquoi ? Mais parce que quand certaines dépenses baissent, cela ne signifie pas que l'argent disparaît. En économie, on parle de réallocation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'argent change simplement de destination. Si une personne dépense moins en fast-food, elle peut consacrer cette somme au sport, aux vêtements, aux voyages, à l'épargne ou à des produits plus sains. L'argent continue de circuler, mais ailleurs. Et d'ailleurs, l'histoire nous aide à prendre du recul. Dans les années 60, la pilule contraceptive a profondément transformé la société. Et certains, d'ailleurs, redoutaient que ce bouleversement ne déstabilise l'économie, par exemple, en faisant diminuer les salaires ou en augmentant le chômage des hommes. En réalité, elle a surtout permis à davantage de femmes d'entrer sur le marché du travail. Or, plus d'actifs, c'est plus de revenus, plus de consommation et donc plus d'investissement. Le système ne s'est donc pas affaibli, il s'est au contraire élargi. Même chose par exemple avec les cartes de crédit. Lorsqu'elles se sont généralisées, certains craignaient que les ménages dépensent trop facilement, s'endettent massivement et finissent par fragiliser le système financier. En clair, on redoutait une crise provoquée par une consommation jugée trop facile. Et ce qui s'est produit est plus simple que ça. Les cartes ont surtout changé la façon de consommer, acheter tout de suite, payer plus tard. Et donc la consommation n'a pas disparu, elle s'est organisée autrement. Alors, les médicaments coupent faim pourraient effectivement suivre aussi cette logique. Oui, certains secteurs alimentaires vont souffrir. Et c'est ce que l'économiste Schumpeter appelait la destruction créatrice. Une innovation fragilise certaines activités, mais en fait naître d'autres. Moins de calories superflues peut signifier aussi plus de dépenses en santé, en prévention, en bien-être. Et surtout, il faut distinguer l'appétit biologique du fameux désir social. Ces médicaments, c'est vrai, réduisent la faim physique, mais ils ne suppriment ni l'envie de réussir, ni le besoin de reconnaissance, ni le désir de confort. Or, ce sont ces motivations-là qui alimentent l'essentiel de l'activité économique. Et donc, le Financial Times a raison, c'est vrai, d'attirer notre attention sur ce phénomène, mais parler d'un capitalisme qui serait mis sous sédatif est probablement excessif. L'histoire montre que lorsque nos habitudes changent, eh bien, l'économie, elle s'adapte. Le désir humain ne disparaît pas, il change simplement d'objet. Et donc oui, le capitalisme est donc loin d'être mort.
Réécoutez la chronique économique sur Ovio.